France Musique. Musique et moi.
Alain Mabankou.
Priscille Lafitte, France Musique.
Les Américains savent-ils que les oiseaux sont meilleurs politiciens que les hommes? Est-ce pour cette raison que leur pays a fait de l'aigle son symbole?
Cittadina, un uomo in tanto, un'onta, sa via
Bonjour, Alain Mabakou. Good morning. Mbotenayo.
Ouh. Vous avez même toutes les langues. Hein.
Et je ne sais pas si je prononce correctement le Lingala.
En tout cas, l'accent était meilleur en Lingala qu'en français.
Je précise qu'on enregistre cette émission à l'avance. C'est le soir pour nous à Paris. C'est le matin pour vous sur la côte ouest à Los Angeles. Cette émission s'est ouverte sur un air de l'opéra Madame Butterfly de Puccini, chanté par Maria Callas en 1955, accompagné de l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Herbert von Karajan. Et j'hésite un petit peu à la main bon coup. Est-ce que vous êtes Pinkerton, celui qui est parti loin aux États-Unis, celui qui aime voyager, qui aime découvrir, qui ne s'attache pas trop? Ou êtes-vous plutôt Madame Butterfly, celle qui scrute l'horizon avec la certitude, peut-être la certitude que vous allez revenir un jour au pays, au Congo-Brazzaville?
Je serais plutôt dans ce sens-là, Madame Butterfly, parce que je voudrais bien revenir au pays. Et quand je vois cette sorte de traversée, je pense aussi à notre mythologie africaine qui parle de ces animaux, les lamantins, qui s'éloignent de leur pays, mais reviennent toujours à la source pour reprendre les forces et repartir. Donc, je serai plus Madame Butterfly et je serai gré justement à Giacomo Puccini pour ce titre.
Ah, vous faites des correspondances entre les oiseaux et les partis politiques dans votre livre « Rumeurs d'Amérique » qui est paru aux éditions Plomb. Vous en avez lu un petit extrait en prélude de cette émission. Je recite cet extrait. « Les Américains savent-ils que les oiseaux sont meilleurs politiciens que les hommes? Est-ce pour cette raison que leur pays a fait de l'aigle son symbole ?» On aurait pu passer des chants d'oiseaux ce matin, mais on va entendre le son de très beaux gosiers. Et vous ne m'avez pas dit, quand est-ce que vous avez entendu la voix de Maria Callas pour la première fois? À quoi est-ce que vous associez ce timbre?
Je pense que c'était depuis la ville de Pointe-Noire. Mon père travaillait dans un hôtel, Victory Palace. C'était un hôtel français. Et de temps en temps, il ramenait les choses venant de l'Occident. Et par hasard, il avait amené cette cassette dans laquelle on entendait cette voix qui énervait ma mère, parce que ma mère n'est pas allée à l'école, elle était analphabète, elle se disait « mais pourquoi cette femme est sans cesse en train de pleurer au lieu de chanter ?» Et c'est là que mon père a commencé à faire son cours presque pratiquement magistral auprès de ma mère, en expliquant qu'attention, c'est une grande dame, elle est respectée dans le monde entier, elle n'est pas que en train de pleurer, mais elle est en train de jouer la musique. Mon père avait déjà vu que Maria Callas avait en quelque sorte introduit même le jeu d'actrice qui devenait aussi important que le son que nous écoutions.
Est-ce que c'est dans ce même contexte que vous avez entendu la petite musique de nuit de Mozart?
La petite musique de nuit de Mozart, curieusement, passait la plupart du temps juste avant les informations nécrologiques au Congo-Brazzaville. Et donc, malheureusement, j'ai toujours associé cela à quelque chose de triste, à quelque chose de nécrologique. Il m'a fallu du temps avant que cette musique puisse être pour moi une sorte de transportation. Et donc, quand on ouvrait la radio qui s'appelait à l'époque la Radio Nationale Congolaise, la radio du parti, le parti unique, après les chants militaires, on avait cette sorte de musique de Mozart qui précédait justement les informations nécrologiques. Et par la suite, quand j'ai fait des recherches, je me suis dit « mais c'est une grande pièce ». Et mieux encore, quand je suis venu en France, quand j'ai commencé la production musicale pour la rumba congolaise, puisque j'ai produit deux albums, j'avais des amis qui étaient en train de répéter et mon téléphone avait justement cette musique de Mozart. Et quand ça a commencé à faire ce son, pin, 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 ah, les Congolais se sont arrêtés et le chef d'orchestre a dit au guitariste, vous pouvez recopier cette musique, parce qu'il ne savait pas que c'était Mozart. Et il y a une chanson dont je n'ai plus le nom, parce que ce n'est pas moi qui avais produit ça, qui était sortie de l'orchestre académien qui, au milieu, Eh bien, ils ont mis du Mozart pour danser de la rumba. C'est là que j'ai vu que la musique classique n'avait pas de frontières et que c'est souvent les frontières que l'Europe elle-même traçait pour une musique qui est appelée à séduire et à voyager à travers le monde.
Alors, je vous propose une version très légère de cette petite musique de nuit. On va écouter le final rondo par les Swingle Singers. Alain Mapankou, vous nous avez parlé de vos rapports avec la rumba congolaise. Je crois que vous jouez de la guitare.
Je joue de la guitare, mais j'ai appris la guitare justement en côtoyant simplement les musiciens africains depuis le Congo, puis ici en Europe. Mais je la joue en amateur. Parce que vous savez, nous, la musique, on ne l'apprend pas forcément en étudiant le solfège. C'est une musique, si vous allez dans la rumba congolaise, je peux vous dire que 99,9% des artistes qui jouent la guitare ne peuvent pas lire le solfège. On était arrivé, par exemple, quand on se produisait avec le groupe Black Bazaar, on arrivait quelque part et on n'avait pas le batteur. Et on se disait, on va prendre un batteur et c'est un Européen qui débarquait et dit, mais donnez-moi le solfège, donnez-moi la musique, les compositions. On dit, mais il n'y en a pas, il faut écouter. Donc c'est par l'oreille et par le regard, les yeux, vous voyez où se posent les doigts, vous dites, ah, le monsieur vous dit, voilà, ça c'est un do, et ça c'est un ré, et ça c'est un fa, et vous jouez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, et c'est comme ça qu'on apprend tout simplement cette musique, qui est plus dans la tête, dans le cœur, dans le rythme, que dans la réflexion un peu musicologique.
Vous en avez joué dans les bars de Pointe-Noire, de Brazza?
Non, je pense que j'ai joué en petit comité quand les amis étaient là. J'ai toujours une guitare chez moi. Bon, là, je ne l'ai pas sortie, elle est en haut là-bas. J'ai toujours une guitare et je n'ai pas vraiment joué en public, hein. Il doit y avoir peut-être une petite vidéo personnelle qui circule sur le web et je m'arrange chaque fois pour qu'on ne la voie pas parce que je suis crispé, je fais des notes de façon robotique et mécanique, ce qui n'est pas de nature à faire un des grands artistes de concert, quoi. C'est vraiment pour mon plaisir que je joue de la guitare.
C'est de la guitare électrique ou acoustique?
Ah, je préfère acoustique, hein. Je préfère les sons un peu acoustiques, un peu lointains. La guitare électrique, non. Et en plus, je préfère même une guitare qui a des cordes vraiment de crin, hein, que des guitares en fer. Je suis resté traditionnel. Je suis très, très traditionnel. Je suis plus celui qui écoute la chanson française classique ou africaine classique.
Et vous avez demandé à ce qu'on écoute un autre autodidacte de la guitare, un chanteur et compositeur originaire de Douala au Cameroun. Il a aussi été journaliste à Radio France Internationale. Il a été directeur de la musique à l'UNESCO. J'ai nommé Francis Bebey. Qui est Francis
Oui.
Bebey pour vous?
Ah ben pour nous, c'est l'un des plus grands compositeurs, musiciens du continent africain. Il a peut-être été l'un des rares à avoir étudié, quand je dis mais vraiment étudié la musique. Et puis il avait une carrière aussi d'écrivain. Sa fille d'ailleurs est aussi écrivain, qui dit Bebey, qui est également journaliste. Ce qui est intéressant, c'est que lui-même, Francis Bebey, a eu une formation occidentale, de la musique occidentale. C'est-à-dire, il a fait tout ce qu'un musicien de ce temps peut faire. Il a fait les Mozart, les Bach, les Handel, etc., etc. Mais ce qui importait pour lui, c'est de valoriser les musiques traditionnelles africaines. Ce qui fait qu'il allait rechercher les instruments des pygmées, les instruments de ces peuples presque en voie de disparition pour en faire vraiment une musique profonde. À mon avis, et je le sens ainsi, qu'il est un des musiciens qui ont vraiment poussé à la naissance des musiques du monde venues du continent africain, dans ce sens.
Black Tears, composé et interprété par le guitariste camerounais Francis Bébé.
France Musique.
Priscille Lafitte, musique et moi.
Léopold Sédar Senghor avait écrit ceci à Francis Bébé à propos de ses pièces pour guitare seule. Je le cite, « Vous avez réalisé là ce que j'attends de l'artiste négro-africain de 1965. » Il s'agit, et vous l'avez compris, de s'enraciner dans la tradition négro-africaine pour accueillir tous les apports étrangers de quelques valeurs. C'est ainsi que nous sortirons du folklore pour produire des œuvres belles qui n'en soient pas moins négro-africaines. » Fin de citation. Alain Mabankou, ça prend quel sens pour vous, cette citation de Senghor ?
Ça prend le sens de l'ouverture, parce que pendant longtemps, on a toujours cru que la valorisation des civilisations africaines par ce mouvement qu'on appelait la négritude était forcément une valorisation contre ce qui était occidental. Et là, Francis Bébé et Senghor sont les chantres de l'ouverture de ce qu'ils appellent la civilisation de l'universel. Je me souviens encore aussi que Francis Bébé lui-même disait qu'il voulait à tout prix que les Noirs d'Afrique prennent conscience de leur musique et que les non-Africains sachent aussi que les Africains existent à partir de cette musique. Et il rajoutait que si on ne connaît pas la musique africaine, sa philosophie, son passé, son présent et son avenir, eh ben, c'est que on ne pourra pas saisir les subtilités de ce continent. Je pense que c'est une musique d'ouverture. Quand vous avez écouté toutes ces notes de guitare, vous voyez comment il balaye en quelque sorte les continents. On a l'impression qu'on est en train d'écouter une musique classique européenne, puis tout d'un coup le rythme devient plus saccadé, empruntant en quelque sorte le côté festif et même le côté dynamique de la rumba, du makossa en principe, hein, puisque l'équivalent pour les Camerounais de la rumba, c'est le makossa. Makossa que, justement, Francis Bébé était un des promoteurs.
Alors Francis Bébé était un ami très proche d'un autre Camerounais, Manu Dibango. Mmh. Je crois même qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une colonie de vacances en France, étant tous deux Camerounais. Et Manu Dibango racontait comment ils écoutaient ensemble des disques de Duke Ellington, comment ils s'imprégnaient du style jungle. Je crois que même il avait raconté une anecdote qu'ils avaient fait du stop ensemble pour aller écouter à Paris Sidney Bechet.
Je pense qu'ils étaient vraiment complices, parce que ce qu'on a constaté, nous, en Afrique, c'est que le Cameroun est un des plus grands pays de musique, en tout cas en Afrique centrale. Il nous a donné des grands musiciens, donc vous avez Manu Dibango, mais vous avez donc Francis Bébé, mais vous avez les bassistes comme les Richard Bonnat de la nouvelle génération, les Mbappé, etc. C'est un pays dont l'activité musicale est très forte. Et la rencontre de Francis Bébé et de Manu Dibango peut équivaloir à la rencontre de Brel avec Brassens plus Ferré. Vous avez cette photo en noir et blanc qu'on voit le plus souvent. Vous avez Brassens, Ferré et Brel. Eh bien, ça pouvait être Manu Dibango, je ne sais pas, Francis Bébé et un autre, un Congolais, Franklin Bukaka. Donc, pour nous, c'était les deux têtes de la musique africaine. Manu Dibango d'un côté et Francis Bébé. Manu Dibango parce qu'il est venu quand même au Congo-Brazzaville pour apprendre la rumba congolaise. Et Manu Dibango est celui qui a plutôt popularisé le soul makossa. Vous savez qu'il a été plagié par Michael Jackson, le procès s'était fait, Jackson avait payé le franc symbolique de sa fameuse chanson Soul Makossa. Quand vous écoutez un album de Jackson, Jackson est en train de chanter quelque chose qu'il ne saisit pas parce que c'est africain. Mamasa, mamasa, mamakossa, mamasa, mamasa, mamakossa. Mais ça, c'est du Manu Dibango pur et qui a été pratiquement photocopié, calqué et récemment, dans les musiciens, les vedettes dites populaires, Rihanna a repris la même chose et quand on l'a attaqué, elle a dit « Ah non, je n'ai pas plagié Manu Dibango, mais j'ai plagié Michael Jackson, qui lui a plagié Manu Dibango. » Donc c'est extraordinaire comme aventure.
« Nandjena, Mostoma. Makosa masa samba. Mostoma. Semana tanga di wo umu sata, jesa mukosa basa. Anu muna si si awo, jesa mukosa basa. Amuna yiye, amuna yiye, koma sama kosa. Tanga di wo umu sata, jesa mukosa.
Manu Dibango, Saul Makusa, en live à l'Olympia en 1977. L'écrivain Alain Mabankou est l'invité de Musique et Moi ce matin. Alain Mabankou, vous avez longtemps habité à Brazzaville. Est-ce que vous avez traversé le fleuve Congo pour vous rendre à Kinshasa? Laquelle de ces deux capitales vibrait le plus fort pendant votre jeunesse?
Je pense que sur le plan musical, évidemment, le Congo-Kinshasa avait une avancée parce que par le nombre d'abord de la population, parce que le Congo Brazzaville à l'époque où je vivais avait à peine 2 millions tandis que de l'autre côté ils en étaient déjà 60 millions. Donc évidemment, il y avait une certaine ferveur musicale parce que dans ces années par exemple 50, 60, c'était l'émergence des grands orchestres, des grands groupes. Des groupes comme ceux de Franco Luambo Makiadi, qu'on appelait tout-puissant OK Jazz, hein, qui a fait le répertoire même de la rumba congolaise. Mais on avait aussi la musique de Tabouley alias Rochereau, qui a été le premier Africain congolais à faire l'Olympia en première partie de Johnny Hallyday. Nous sommes quand même dans ces années 60, vous avez cet Africain qui fait pour la première fois l'Olympia. Et mieux encore, lorsque Manu Dibango, qu'on a écouté tout à l'heure, émergeait, il est venu s'installer aussi bien dans les deux Congos pour rajouter à sa connaissance musicale occidentale et camerounaise la patte de la musique de la rumba congolaise. Et de ce fait, Manu Dibango avait composé même un des albums d'un des plus grands musiciens du Congo-Brazzaville qui s'appelle Franklin Bukaka. Si j'insiste d'ailleurs sur Manu Dibango, c'est qu'il avait été l'un des rares musiciens qui était venu suivre mes cours quand j'étais professeur au Collège de France en 2016. j'avais consacré un cours sur les musiques africaines et pendant que je parlais, j'évoquais la musique, je soulève la tête, je vois quelqu'un, le crâne bien rasé, les lunettes, j'ai dit, mais j'ai vu cette personne quelque part et je me rends compte, c'était l'immense, le grand et le légendaire Manu Dibango qui était en train de suivre les cours au Collège de France que je donnais. Donc les deux capitales, le Congo-Brazzaville et le Congo, la Brazzaville et Kinshasa, ont inventé vraiment une musique qui a traversé le continent et qui jusqu'alors continue à faire danser le continent africain et même les musiques du monde.
Est-ce que vous avez croisé d'autres musiciens, peut-être moins réputés, de l'OSK, l'Orchestre Symphonique Kibanguiste ? Je vous propose d'écouter un reportage effectué par les équipes de France Musique en 2014 à Kinshasa, Dominique Boutel et Gilles Blanchard-Yettet. Ils ont interrogé un des musiciens de l'orchestre sur l'aura de cet ensemble dans la région.
Les gens savent que nous sommes là. Parce que généralement, si on organise un concert ici à Makata, il y a plein de monde. Plein de monde. Je vous dis, un monde fou. On mobilise, je ne sais pas combien d'hommes lorsqu'on présente un concert ici. Donc, tout ce monde qui sont ici, même si on se déplace, le jour où on voulait se rendre en Allemagne, à notre départ, quand on sortait comme ça, les gens qui vendent ici au marché se sont mis à crier, « Ah, ils sont partis, ils vont aller monter dans l'avion aujourd'hui. » Et c'était vraiment génial.
Pour beaucoup de gens, vous êtes des modèles, on peut dire.
Oui, nous sommes des modèles. Aujourd'hui, nous sommes des modèles. Ouais. Avant, c'était peut-être... Les gens ne savaient vraiment pas ce qu'on faisait avant. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ça, c'est la belle musique. Ce genre-là joue de la belle musique. C'est la seule musique qui manquait au noir. On pouvait tout jouer, ouais. Sauf ça. Et aujourd'hui, on a ça, donc nous sommes fiers.
Le cœur de l'OSK, l'Orchestre Symphonique Kibanguiste en 2014, c'était lors d'une visite de Sophie Janin à Kinshasa. Sophie Janin que l'on connaît bien à Radio France puisqu'elle dirige la maîtrise de la Maison Ronde. Est-ce que la réputation de cet orchestre était arrivée jusqu'à Brazzaville quand vous y habitiez ?
Oui, parce que même jusqu'à présent, parce que l'orchestre quand même est fondé aussi sur la philosophie de Simon Kimbangu qui est un des grands prophètes noirs entre les deux Congos. Simon Kimbangu, pour vous donner une idée, est l'équivalent pour nous de Jésus qui descend sur la terre. C'est vraiment un courant religieux très très répandu. Lorsque le musicien qu'on a interviewé dit que c'est la seule musique qui manquait au Noir ou en Afrique, bon, c'est vrai, mais ce n'est pas tant que ça, parce que c'est une musique qui existait, mais elle était cantonnée à l'intérieur des églises kimbanguistes. C'était considéré une musique symphonique, était considérée comme une musique de Dieu. Donc, ça restait dans la géométrie même de l'église et le public ne pouvait pas y accéder ou ne pouvait pas y aller parce qu'on pensait que cette musique n'avait pas les caractéristiques nécessaires pour pousser les gens à danser, etc. Mais au fond, aujourd'hui, ça se popularise beaucoup de plus en plus parce que on voit comment des musiciens, des jeunes musiciens comme les Jupiter Okwechi, qui sont en train d'aller à travers le monde en mélangeant plusieurs sortes de musiques, dont peut-être aussi ces accents symphoniques. Et je pense que c'est aujourd'hui l'un des rares orchestres de musique classique. D'ailleurs, on a en Afrique centrale, il y en a, je crois, un en Angola là-bas. Mais il a raison de dire que ça devient de plus en plus populaire, mais ça devient populaire non pas pour des raisons artistiques, ça devient populaire parce que l'Afrique aujourd'hui est en train de traverser une période d'incertitude, peut-être morale. Et beaucoup de gens se réfugient soit dans la religion officielle ou dans les religions plutôt locales ou alors dans les sectes. Et dans ces sectes ou ces religions locales, cette musique est prégnante. Elle a épousé un peu ce qui se passait dans les églises. Ici, on a l'orgue, les gens qui chantent, etc., etc. C'est une musique classique européenne qui a été tropicalisée et qui a été mise à jour pour que ça ressemble ou pour que ça restitue notre propre identité.
Alors, je précise que les musiciens de cet orchestre auraient dû passer à Paris il y a quelques jours à la Philharmonie de Paris et vu les circonstances et la pandémie mondiale, ils n'ont pas pu faire le voyage. Mais franchissons l'océan Atlantique. Revenons à vous, à la Californie, aux États-Unis. Et faisons un petit saut dans le temps. Je vous propose de nous télétransporter à San Francisco en 1950 quand Marianne Anderson enregistre les Kindertotenlieder de Gustav Mahler. Donc Marianne Anderson, une des toutes premières chanteuses lyriques africaines-américaines, la première à chanter sur la scène du Metropolitan Opera. La voici donc dans l'une des mélodies de Gustav Mahler avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco sous la baguette de Pierre Monteux. Quelle voix que celle de la contralto Marianne Anderson. Quel parcours aussi à la Mabankou, hein, puisqu'elle est née aux États-Unis, à Philadelphie. Elle part se former à Londres au début des années 1930. Elle fait sensation à Berlin, Salzbourg, Paris. Elle rencontre même le compositeur Jean Sibelius, qui lui dédie une mélodie. Et c'est à son retour aux États-Unis en 1935 qu'elle atteint la reconnaissance dans son pays natal, avec un récital au New York's Town Hall. Et cet enregistrement de 1950 a donc précédé de 5 ans ses débuts au Metropolitan Opera. Elle est la première chanteuse noire à fouler la scène du Metropolitan Opera de New York. Qu'est-ce qui était possible pour les musiciens noirs aux États-Unis dans ces années-là?
Mais dans ces années 50, ce sont les années de turbulence, ce sont encore les années de ségrégation raciale. On est dans les années 50. 10 ans plus tard, on va avoir les assassinats des grandes figures comme John Fitzgerald Kennedy, comme les Martin Luther King un peu plus tard aussi. Et elle, comme vous l'avez souligné, en chantant pour la première fois au Metropolitan Opera, elle franchit un cap très intéressant puisque elle montre de ce fait que sa musique, qui elle était issue vraiment comme la plupart des musiciennes noires qui étaient issues de ce qu'on appelait alors le négro spirituel, qui allait donner plus tard le gospel, sa musique va résonner comme une requête pour presque l'émancipation de cette couleur noire, parce qu'elle a vécu, elle aussi, la même discrimination. On a dû lui refuser de jouer dans telle salle parce qu'elle était noire, ceci, cela. Mais je pense que c'est là que la musique, peut-être, a été l'un des éléments qui auront contribué à briser la barrière créée par la race. Et je pense qu'on peut la considérer comme, pour moi, comme une aussi des voix des droits civiques. Parce que de la même manière que plus tard, Ray Charles allait chanter son hymne national qui s'appelle Georgia pour montrer un peu l'universalité de l'humanité, elle était celle qui illustrait à mieux qu'on peut venir des civilisations noires, embrasser les civilisations occidentales, embrasser la musique classique et y donner sa propre patte tout en disant son humanité et sa négritude.
Celle qui a fait des débuts fracassants au Metropolitan Opera, un demi-siècle plus tard, en janvier 1913 très précisément, c'est la Sud-Africaine Pretty Yende qui remplaçait au pied levé le rôle-titre, celui d'Adèle dans le Contori de Rossini.
Oh.
en proie à la tristesse. Air de la comtesse Adèle dans le Contori de Rossini. C'est tiré de l'album Pretty Yende A Journey qui date de 2016.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
L'écrivain Alain Mabankou est l'invité de Musique et moi ce matin pour son livre Rumeurs d'Amérique, paru aux éditions Plon. Est-ce que vous savez, Alain Mabankou, que Pretty Yende n'est pas seul, qu'il y a plein de chanteurs lyriques formidables en Afrique du Sud qui ont été formés à l'Université du Cap?
Ah ben voilà. Moi, je connaissais pratiquement Pretty Yende parce que tout simplement, elle a fait plusieurs apparitions aussi à Paris, hein, notamment dans les années 2016 là. Et où elle s'est produite à l'Opéra Bastille. Moi, je la considère, c'est vrai, dans cette école de la nouvelle génération, puisqu'elle est une fille des années 80, elle est née dans les années 80. Dans cette nouvelle génération, je la considère comme la voix vraiment la plus puissante, la plus ouverte même au monde. Et elle a un parcours que vous avez peut-être souligné tout à l'heure avec délectation, je l'ai ressenti. C'est quand même curieux de constater qu'elle aura aussi fait le Metropolitan Opera comme l'avait fait Marian Anderson, comme on a parlé tout à l'heure. C'est aussi son jeu. Je sais qu'elle a picoré ici et là le jeu d'acteur pour elle, d'actrice pour elle aussi est aussi important comme le jeu dont on avait parlé au sujet de Maria Callas. Et évidemment, l'Afrique du Sud continue à nous donner une musique variée. Ce n'est plus seulement les chants zoulous en tant que tels ou la force des musiques du monde apportées par les Myriam Makeba, etc., les Johnny Clegg et autres. Nous avons cette sorte de musique classique aussi qui se développe là-bas. Et ça ne m'étonne pas que l'Afrique du Sud, qui est considérée comme la nation de l'arc-en-ciel, soit le vivier de cette musique. Chaque fois que vous avez un espace géographique dans lequel la douleur, l'humiliation, presque les ségrégations ont été fortes, puisque l'Afrique du Sud a hébergé pendant des années le système de ségrégation raciale connu comme l'apartheid, de la même manière qu'il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis qui avait donné les Marian Anderson. Là, nous avons une fille qui est née pendant la période encore de l'apartheid et qui devient presque la voix de toute une génération. À se demander si la libération aussi ne passe pas par cette musique classique et que le continent africain est en train de déployer probablement ce genre musical, donnant au monde ou bien rappelant au monde que la musique n'a pas de frontières et que aucun continent n'a le monopole du genre musical.
Vous, Alain Mabankou, vous êtes plutôt versé dans le rap, je crois. Surtout depuis que vous êtes aux États-Unis, voilà. Ou ça date d'avant?
Oui, je pense que ça date un peu d'avant parce que dans notre jeunesse, qu'elle soit la jeunesse parisienne dans les années 90, c'était aussi l'émergence des rap, l'émergence des MC Solar, l'émergence des groupes NTM. Et depuis que j'habite aux États-Unis, je côtoie ces rappeurs, je vais dans leurs concerts et c'est vraiment une musique que j'adore.
Et vous vous êtes attaché, je crois, à la figure du rap indépendant. Vous en parlez dans votre livre « Rumeurs d'Amérique », la figure du rap, oui. Nipsey Hussle.
Voilà. Nipsey Hussle était, pour moi, puisqu'il a été assassiné par un règlement de compte, c'était le
En mars 2019, qui, ouais.
Voilà. C'était le rappeur qui voulait redonner vraiment à la communauté ce qu'il avait. Il avait créé un supermarché, il avait créé une boutique de vente de chaussures, il avait créé un restaurant, un salon de coiffure, et il était vraiment devenu le millionnaire qui passait dans le quartier dans ses voitures de luxe, mais distribué aux Noirs de Inglewood, qui est le quartier le plus peuplé de Noirs. Et un jour, j'entends des sirènes partout dans la ville, donc en mars 2019, et je regarde à la télé, on m'a dit que Nipsey Hussle est mort. Et je prends la voiture, je vais me garer quelque part pour assister un peu à ce qui se passait, la foule de Noirs qui était là, la police qui lançait les bombes lacrymogènes, et j'étais vraiment triste parce que sa mort m'a rappelé aussi la mort de deux autres musiciens que j'aime, Tupac, qui était de la côte ouest, du côté de la Californie, et Big Notorious, qui était de la côte est, du côté de New York. Court don't show forgiveness. Engine in the Lambo drowning out the music. Sip Dior with the flowers, five gold Cubans. Champagne while I shop, hope I splurge foolish. Closing escrow twice this month, both commercial units. Damn, I wish my nigga Fast was here. How you died 30 something after banging all them years? Grammy nominated in the sign of shedding tears. All this money, power, fame, and I can't make you reappear. But I don't wipe them though. We just embrace the only life we know. If it was me, I'd tell you, nigga, live your life and grow. I'd tell you, finish what we started, reach them heights, you know. And gas the V12 to the pipe and smoke. I was riding around in the V12 with the racks in the middle. Had a pray to almighty God, they let my dog out the kennel. When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit. I've been pulling up in the drop tops with the baddest bitches. Ooh. Young nigga been focused on my check, Got a new coupe wrapped around my neck. Trying to put the water on my potato. I got killers to the left of me. Another $1 million bail, that shit some regular shit. See my granny on the jet, some shit I never forget. Next day we flew to Vegas with my Boomer Connects. We break bread, we ain't new to success. Blade music and best. Enterprise, take lucrative steps. Cold game, but I knew it was chess. As a youth in the set, learn the game, you a student at best. But it's a couple things you can expect. Look, just like money, no money, nigga shooters respect. Other shooters, we was both throwing my crew on your neck. I'm on the freeway in the drop, it got me losing my breath. I do the dash with the blues on the deck.
Rex in the middle de Nipsey Hussle. Alain Mabankou commençait de vivre en Californie en 2020. Vous avez traversé le Covid, vous le traversez encore, les incendies, maintenant une campagne présidentielle. C'est pas un peu étouffant?
C'est très étouffant. Ce qui est d'ailleurs étouffant, c'est aussi le fait que peut-être que nous avons un gouvernement qui ne veut pas regarder les choses en face. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que non seulement en Californie, mais toute l'Amérique vit dans une situation d'alerte permanente. On ne sait pas où on va. On a le sentiment qu'il y a une sorte de remue-ménage, prélude à une certaine révolution sociale dont on s'attend aux répercussions d'un moment à l'autre. Mais il reste que on garde l'espoir. Et moi, il m'arrive pour un peu briser cette sorte de situation tragique de prendre la voiture, d'aller du côté du désert, du côté du Nevada là-bas, de me promener tout seul avec mes deux chiens, juste pour me dire que je suis dans le monde et que peut-être le désert est l'endroit où on peut le plus dialoguer avec soi-même et peut-être être en communion avec son présent et son futur. C'est le désert quand je pense aux États-Unis actuellement.
Dans ce livre « Rumeurs d'Amérique », vous écrivez à un moment « Trump est le personnage parfait pour un romancier ». Vous y pensez, oui, à écrire sur Trump?
Oui, c'est le personnage parfait pour le romancier, mais en même temps, je rajoute que le romancier aurait du mal à écrire sur Trump parce que il n'y a pas meilleur romancier sur Trump que Trump lui-même. Et au moment où vous pensez, voilà, au moment où vous pensez l'avoir compris, avoir fait le tour de sa personnalité, comme un magicien d'enfer, il vous sort un autre tour. Par exemple, ces derniers temps, dans sa campagne, c'est de plus en plus une campagne haineuse contre la science, contre ceux qui sont en train de s'occuper de la santé publique. Donc, c'est un personnage presque surprenant à se demander si on ne pourrait... Moi, je n'en veux pas à Trump. J'en veux à cette Amérique qui n'a pas compris que ce poste de président de la République est un poste nécessaire pour le destin de toute une nation et qu'on ne joue pas avec le destin de plusieurs, des millions et des millions d'individus. On l'a élu démocratiquement et c'est ça le comble. C'est-à-dire que les plus grandes horreurs qui peuvent être faites par un chef d'État ou par un gouvernement sont encore plus insupportables lorsqu'on se rend compte que c'est nous-mêmes en tant que peuple qui avions mis le président au pouvoir. Je ne ferai pas de parallèle, mais l'histoire nous montre que beaucoup d'extrémistes ou de présidents qui se sont livrés à des tragédies les plus horribles ont parfois été portés au pouvoir par des peuples qui pensaient que les démagogues et les populistes pourraient changer le cours de la vie. Et c'est ça peut-être la tristesse. Et je suis de ce fait très troublé puisque je suis venu dans cette Amérique quand il y avait George Bush qui était président de la République, le papa, puis j'ai connu les mandats du président, le fils, Bush Junior, puis j'ai connu les deux mandats de Barack Obama et pour en arriver finalement au mandat de Donald Trump qui s'achève et qui peut-être, qui sait, va être reconduit et j'espère pas.
En Californie, là où vous êtes, Alain Mamoukou, ce matin, comme dans le monde, l'art vivant, la musique vivante est à l'arrêt, notamment au Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, qui est fermé en ce moment. Je ne sais pas si c'est une salle que vous connaissez. Et un des derniers concerts qui a été donné dans ce concert hall de Walt Disney a été donné sans public. C'était le 2 octobre dernier. Gustavo Dudamel a dirigé la Rhapsodie Blue de Gershwin avec le français Jean-Yves Thibaudet au piano. C'est donc une performance qui est sur le web uniquement. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette Rhapsodie Blue avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet dans un enregistrement qu'il a effectué aux côtés de l'Orchestre Symphonique de Baltimore dirigé par Marine Alsop. George Gershwin, la Rhapsody in Blue, première tentative de créer du jazz symphonique, de la musique noire métissée à du grand orchestre européen. C'était au Weollian Hall en 1924 à New York, sur une idée de Paul Whiteman, qui avec son orchestre blanc avait repris la musique jazz noire encore naissante au début des années 20. Aujourd'hui, on parlerait de réappropriation culturelle, Alain Mabankou.
Oui, aujourd'hui, on parlerait de réappropriation culturelle, ce qui serait injuste, puisque je pense qu'il faut qu'on se souvienne que le jazz aussi a été popularisé grâce à l'Europe. Le jazz a connu ses grandes heures vraiment de promotion, la présence en Europe des grands musiciens noirs américains comme les Miles Davis, les écrivains comme les Chester Himes, mais aussi les Josephine Bakers, les Charlie Parker. On a connu cette époque où l'Europe était friande du jazz. Ça ne voulait pas dire que l'Europe voulait s'emparer des cultures africaines. Quand la musique n'a pas à avoir une maternité ou une paternité, dès lors que quelqu'un ressent quelque chose, ce n'est plus de l'appropriation, mais c'est plutôt même, je pense, du respect. Moi, je suis pour que les cultures soient appropriées par les uns et les autres. De voir Whiteman qui reprend justement le jazz pour le porter à l'intérieur, ça donne du courage. Et au demeurant, il faut aussi dire que le jazz en lui-même est un genre qui est métissé. Certains instruments relèvent de la musique occidentale, que les Noirs ont pu jouer autrement ou imposer des rythmes autrement. Déjà, le jazz en soi est une musique du tout monde, comme dirait Édouard Glissant. Donc, l'appropriation culturelle est une idée simplement inventée par quelques extrémismes qui voudraient expliquer au monde que les cultures doivent rester compartimentées, chacun picorant dans la case de son père sans regarder ce qui se passe dans le monde. Quand une musique voyage, elle ne nous appartient plus, elle appartient à la mémoire collective, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche. Dans mon enfance, j'ai écouté mes cousines chanter du Nana Mouskouri. J'ai écouté mes parents chanter du Georges Brassens. On ne venait jamais dire que les Africains ont fait de l'appropriation culturelle. Tout au plus, on nous disait que nous étions des acculturés et qu'on n'avait pas une culture africaine.
Alain Mabankou, un parcours qui vous inspire et vous fascine, je crois, c'est celui de James Baldwin. Et oui, vous racontez une drôle d'anecdote dans votre livre « Rumeurs d'Amérique ». C'est qu'un autre de vos livres, « Letter to Jimmy », oui, donc un livre sur Baldwin, est classé dans le rayon de littérature gay à Los Angeles.
Oui, c'était d'ailleurs curieux. J'ai raconté cette scène parce que le livre qui était sorti en France sous le titre de « Lettre à Jimmy » était un hommage rendu à l'écrivain noir américain James Baldwin. Mais comme les gens ne retiennent le fait qu'il a été homosexuel, qu'il a écrit certains livres sur l'homosexualité, qui étaient littéraires. Moi, je pense que un roman comme La Chambre de Giovanni, qui est l'un des plus beaux romans de la littérature américaine, ne peut pas être cantonné au fait que c'est des personnages qui sont homosexuels à l'intérieur. Et en plus, lorsque moi j'écris sur James Baldwin, dans l'esprit de beaucoup, c'est un homosexuel qui écrit sur un homosexuel, alors que c'est faux, parce que ce n'est pas parce que la poule pond l'œuf que c'est à la poule de parler de l'œuf, le cuisinier peut en parler. Et donc j'étais étonné de voir que mon livre avait été classé dans la littérature gay aux États-Unis, et mon amie Pia Petersen, qui est danoise, est allée demander au libraire mais pourquoi le livre de mon ami Monsieur Mabankou est classé dans la littérature gay. Il dit parce que tout simplement il parle de James Baldwin, ce qui est une aberration.
James Baldwin, vous le dites, qui pauvre, noir, homosexuel, aimait rire de sa situation.
Oui. Il aimait vraiment rire quand on lui disait, ben écoutez, James Baldwin, à vos débuts, vous avez été quand même dans une situation délicate, vous étiez noir, vous étiez pauvre, vous étiez homosexuel, ça fait quand même beaucoup, non? Et lui, il a raconté, ah non, 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 moi je trouvais que j'avais gagné le jackpot, et pour cela, il me suffisait simplement de raconter ma condition pour y parvenir. Donc il prenait ça avec distance. Il prenait ça non seulement avec distance, qu'il avait quitté les États-Unis pour aller vivre dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, où il serait plus tranquille. À cette époque où il arrive en France, dans les années 50, la France, Paris en particulier, est la capitale même de la liberté artistique. Quand il arrive, il y a déjà les grands écrivains comme les Richard White qui sont déjà là, il y a les Josephine Baker qui étaient toujours là, il y a les Miles Davis qui étaient là, et lui, il vit dans le Marais, qui est aujourd'hui le quartier où il y a plus d'homosexuels, et il vit dans ce quartier, et il sent une certaine liberté. Mais ceux qui lui portent un mauvais jugement, ce ne sont pas les Français, mais les autres Noirs américains, comme son mentor Richard White, à qui on demandera, on lui dira, mais James Baldwin, c'est un grand écrivain, non? Il dit, oui, c'est un grand écrivain, mais c'est un homosexuel. Donc à cette époque-là, c'était quand même bizarre de discréditer quelqu'un pour son orientation sexuelle. Ce qui, je pense, dans notre époque n'est plus la même chose.
Est-ce que vous avez en tête, Alain Mabankou, la voix chantée de James Baldwin?
Je sais qu'il a fait un album de jazz, je sais qu'il avait un piano dans sa maison à Saint-Paul-de-Vence où venaient Yves Montand, Simone Signoret et autres. Mais j'ai écouté la voix gouailleuse un peu du grand fumeur de cigarettes. Oui, j'ai la voix dans la tête.
Le
Mais j'ai
voici
peur.
dans le chant Precious Lord
Oui.
avec un enregistrement sur lequel Bob Stewart au tuba a enregistré un accompagnement.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn through. Storm through the night, lead me on to the light. Precious Lord, take my hand and lead me on. Through the storm.
Alain Mabankou, James Baldwin est pour vous un frère d'écriture, un frère d'émotion?
C'est à la fois un frère d'écriture, un frère d'émotion. C'est pour ça que le livre « Lettre à Jimmy » était écrit dans ce sens, dans le sens d'une lettre que j'écrivais à quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer, mais que je n'ai pas rencontré. Et là, on voit comment son art est plein. On voit comment il peut naviguer aussi bien dans l'écriture que dans la chanson. Il aurait pu faire un des grands musiciens peut-être de jazz, un des grands compositeurs ou un des grands interprètes dans ce sens. James Baldwin, j'ai même tendance à me demander, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Parce que quand on l'écoutait tout à l'heure, j'étais pratiquement transporté. J'ai ressenti toute la détresse de tout un peuple. Mais aussi, je n'étais pas déboussolé parce que j'ai reconnu les accents de son œuvre romanesque. Quand il chante, il a beaucoup consacré des textes sur la musique. Si vous lisez par exemple son grand roman Harlem Quartet, vous voyez déjà le quartet et à l'intérieur, c'était quelqu'un qui était proche même de ce jazz. Il est un modèle parce que c'était quelqu'un qui avait revendiqué les droits civiques aux États-Unis. Quelqu'un qui avait marché aux côtés de Martin Luther King à l'époque de son discours « I have a dream ». Et il était là avec les Marlon Brando. C'était la grande révolution, la grande époque de cet écrivain qui, pour rester indépendant, habitait toujours en France où il est mort. Et en 87, où il a vraiment peut-être appris la langue française, puisqu'il parlait aussi le français.
Lorsque je vous ai demandé, Alain Mabankou, de choisir une musique en lien avec votre livre « Rumeurs d'Amérique », vous m'avez demandé à écouter « A Change is Gonna Come » de Sam Cooke.
Oui.
Alors, je vous propose qu'on écoute une version jazz de cette chanson, une version enregistrée par la clarinettiste Anat Cohen. Est-ce que vous voudriez bien nous lire un extrait de votre livre qui parle précisément de James Baldwin?
Aujourd'hui encore, si je m'attarde sur les rides de son visage, j'ai l'impression d'emprunter des sentes qui débouchent sur une clairière où j'entends sa voix, où il me confie enfin des secrets qu'il n'a pas dévoilés durant son existence. Son sourire est à peine esquissé et change autant de fois que je le détaille. Et puis, il y a ses yeux, ses grands yeux à fleur de tête que raillait son père, ignorant qu'il questionnerait plus tard les âmes, percerait la part la plus ténébreuse de l'humanité avant de se refermer à jamais avec toute la volonté de poursuivre leur quête dans l'autre monde, allais-je écrire en début de ma lettre. Baldwin a modifié la conception que j'avais jusqu'alors de la création, car en m'inscrivant dans son sillage, j'ai su que le désespoir, l'agonie intérieure habitent toutes les races. L'écrivain doit inventer un univers où l'homme n'a que l'amour du prochain pour unique salut. Puisque nous ne pourrons nous dérober, la vie est tragique parce que la terre tourne et que le soleil se couche inexorablement et parce que le jour viendra pour chacun d'entre nous où le soleil descendra pour la dernière fois.
A change is gonna come. Le changement interviendra peut-être dans 2 jours, qui sait? Vous allez voter, vous, pour la présidentielle américaine?
Non, parce que je ne suis pas citoyen américain, je suis résident américain. Je vote plutôt en France, mais j'encourage autant que faire se peut autour de moi mes amis américains d'aller voter, de faire le bon choix pour que justement le changement prôné par Sam Cooke puisse arriver, parce que un changement va venir. Ce changement prôné également par Barack Obama, ce changement que veulent les Américains qui ne souhaitent plus que leur pays soit la risée sur la scène internationale. Donc c'est plutôt en ami, en frère et peut-être en complicité que je demande aux Américains de faire le choix du retour à une Amérique sereine, à une Amérique solidaire et qui n'est pas divisée, à une Amérique qui repousse les extrémismes, qui repousse peut-être les suprémacistes blancs que peut-être protège le président de la République. Et nous savons que les suprémacistes, les intégristes font du mal, non pas seulement à un peuple, mais à l'ensemble de notre humanité. Et toute barbarie doit être repoussée. Et on sait ce que ça donne quand les gens sont barbares, il n'y a plus de repères. Et moi, je souhaite une Amérique avec de repères, une Amérique forte et une Amérique généreuse.
Merci beaucoup Alain Mabankou pour cet entretien réalisé depuis Los Angeles ce matin. On peut approfondir votre regard sur l'Amérique dans votre livre « Rumeurs d'Amérique » qui est paru aux éditions Plon. Un grand merci à Jean-Michel Bernaud ce matin à la technique, réalisation Catherine Prin-Legas, l'attachée de production Marie Ferdinand. Passe une très belle journée sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.